Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée du Cercle Saint-Luc. Nous allons commencer par un petit exposé, enfin petit, je ne sais pas d'ailleurs, mais bon, un exposé, disons, que je vais vous faire surtout sur les aspects légaux de la pratique actuelle en Suisse, de l'assistance au suicide, et puis des évolutions auxquelles il faut s'attendre. Et ensuite d'éventuelles possibilités de contrer cette évolution. Et ensuite, je laisserai la parole à Sonia, qui va apporter un témoignage comme infirmière. Et j'espère que nous aurons assez de temps pour une discussion, un échange d'idées, une sorte de table ronde. Alors, nous avons en Suisse des organisations qui rassemble les partisans de l'euthanasie et qui, pour l'instant, limitent leur pratique à l'assistance au suicide. Nous avons la société EGVIT, qui date de 1982, et qui compte 55 000 membres. Nous avons également la société EGVIT ADMD, de Suisse romande, qui est distincte de la première, qui compte 10 000 membres, 10 000 adhérents, qui payent une cotisation. Nous avons aussi la société Dignitas, qui a quelque peu fait parler d'elle dernièrement. Elle a 4 500 membres dans le monde et elle a 700 adhérents en Suisse. Il y a d'autres petites associations, mais qui sont beaucoup moins importantes. En 2003, il y a eu 63 000 décès, toutes sortes de causes, un décès en tout, en Suisse, dont 1400 suicides. Et de ces 1400 suicides, 270 étaient assistés. En 2007, 61 000 décès, un peu moins qu'en 2003, grâce peut-être au progrès de la médecine, je ne sais pas. Mais malheureusement, 1800 suicides, donc une augmentation de 28%, et dont 400 suicides assistés. Vous voyez, donc une augmentation de... Ça représente déjà quand même... Les suicides assistés représentent entre un quart et un tiers de tous les suicides, et puis ça représente une augmentation de 48% par rapport à 2003. Ces chiffres nous viennent de M. Stadelmann, qui est le sous-directeur au département fédéral de justice et police, qui est venu donc dernièrement, au mois de mars, nous faire une présentation justement du problème. La plus grande organisation emploie 10 employés fixes et s'appuie sur un réseau de 18 médecins qui prescrivent et fournissent la substance, le produit qui va servir à l'assistance au suicide. Néanmoins, 50% des ordonnances pour ce produit seront faites par le médecin traitant. Voilà pour les chiffres, pour nous mettre déjà dans le bain. Non, il y a 18 médecins affiliés au réseau EGVIT, qui sont des médecins qui vont fournir le médicament à la demande des intervenants de l'association et qui vont intervenir comme médecins conseils et qui ne seront pas forcément les médecins du suicide, du patient suicidant.
Alors ça veut dire, si je viens chez vous et vous refusez de me faire une ordonnance, je vais chez eux.
Oui, voilà, vous avez le choix, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, juste un mot de l'assistance, ou l'aide au suicide. Le terme officiel, c'est assistance au suicide, qui est donc autorisée légalement. La nature de l'aide n'est pas, par contre, définie dans la loi. Ça pourrait être la corde, le revolver, la simple aide psychique, le poison. En Suisse, je dirais, conformément à la mentalité helvétique, où on veut faire les choses propres en ordre, ce sera plutôt le poison qui est utilisé. Alors, cela se pratique de la façon suivante. Il y a une prescription du produit par un médecin et lui-même ou une autre personne l'association, de l'organisation, va apporter la substance toxique à une dose mortelle au suicidant, à la personne qui veut se suicider. La substance utilisée actuellement, c'est le pentobarbital. Alors j'ai ici l'ordonnance, si ça vous intéresse, je fais circuler, mais je la récupère à la sortie, hein, personne ne la garde. Pour que l'aide au suicide ne soit pas assimilée à un homicide, il y a quand même quelques conditions. Il faut que la personne, le suicidant, accomplisse lui-même le geste qui va entraîner la mort. Et il faut que cette personne jouisse aussi de son plein discernement, d'une pleine conscience de son acte et de ses conséquences. Le produit lui-même, le pentobarbital, c'est à l'origine un médicament anesthésique qui n'est, à ma connaissance, je crois, plus utilisé et qui n'est pas reconnu en Suisse, qui n'est pas reconnu par l'instance officielle, donc Suisse Médic. Il peut néanmoins être prescrit sur ordonnance, une ordonnance pour stupéfiant, parce qu'il est assimilé à un stupéfiant, et selon une formule magistrale. Il n'est pas commercialisé, donc, mais il peut être obtenu en pharmacie. Alors, je vous disais donc que cette assistance au suicide peut se pratiquer en Suisse parce qu'elle est de façon légale. Quelles sont les bases légales de cette pratique? Alors là, il faut citer deux articles qui sont des articles du Code pénal. Tout d'abord, l'article 114, qui est interdit l'homicide, même pour un motif compassionnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit en Suisse, officiellement, légalement, de tuer quelqu'un, même qui vous le demanderait, qui souffrirait extrêmement. Vous n'avez pas le droit de faire le geste de le tuer. Et vous avez surtout l'article 115 du Code pénal sur lequel tout repose. Je vous le lis. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de réclusion pour 5 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Voilà, alors en fait, ce sont les articles qui autorisent, ils interdisent d'abord leur intention. Leur intention initiale, c'est d'interdire. Mais comme cet article 115 nous dit que c'est que si on aide quelqu'un au suicide poussé par un mobile égoïste, celui qui dira qu'il n'a pas eu de mobile égoïste ne sera pas inquiété et aura agi légalement, puisque si on n'a pas. On n'a pas le droit d'aider au suicide par mobile égoïste. On peut donc aider au suicide sans mobile égoïste. Vous avez donc une autorisation dans un article qui est interdit. Vous avez une autorisation implicite. Je tiens à souligner que c'est une spécificité du Code pénal suisse. Nous nous distinguons en Suisse de façon originale par cet article de loi. Je ne sais pas s'il y a de quoi être fier, mais disons ça nous distingue des autres. Des législations d'autres pays. Et il est intéressant de souligner aussi que son origine, l'origine de cet article est très ancienne. Alors, je voudrais juste faire un petit, donner, faire une, vous expliquer la genèse de cet article et de la pratique actuelle. On peut dire qu'au XVIIIe siècle, déjà, on est arrivé, on a admis la non-punissabilité du suicide. Pardon, 18e siècle. Hein. Auparavant, le suicide était considéré comme un moralement, donc, enfin, un acte immoral était de fait un acte illégal et punissable. On parle donc de suicidés qui n'avaient pas droit à la sépulture, qui étaient, dont le corps était livré à la dissection. J'ai entendu dire aussi de... Je ne suis pas sûr des sources, mais que des fois on rependait une deuxième fois la personne qui s'était pendue par suicide. Je ne sais pas si c'est juste. Les héritiers étaient... On dit aussi que les héritiers étaient privés d'héritage. Il y avait quand même quelquun qui s'était suicidé pouvait être puni d'une certaine façon une deuxième fois. Et puis un rescapé pouvait être aussi éventuellement puni. On a admis à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle que c'était plutôt la compassion que la punition qui devait être appliquée au rescapé d'un suicide. Et même à celui qui l'avait réussi. Et on est arrivé à la notion que le suicide n'était pas punissable. Alors après, on s'est posé la question, mais celui qui aide, qui apporte son concours à un acte non punissable, est-ce que cette collaboration est-elle punissable ou non ? La question s'est posée à la fin du XIXe siècle. Il y a eu donc plusieurs, disons, disputes, un échange d'arguments à ce sujet. Certains pensaient qu'il fallait punir dans tous les cas. Mais on est quand même arrivé progressivement, on est arrivé à la définition de l'article 115, qui était déjà admis par le Conseil fédéral en 1918. Donc, l'intention était de restreindre, de punir la collaboration d'un tiers à un suicide, mais avec une exception. Je vais vous lire un peu l'argumentaire. La notion sur laquelle reposait la définition d'une telle loi. Voilà, on disait que si on punissait donc les gens ayant collaboré à un suicide, dans tous les cas, que cela frappera surtout des personnes qui ont agi par des mobiles loyaux et honorables. Les hommes, par exemple, qui auront par amitié facilité le suicide d'un camarade perdu d'honneur. C'est quelque chose qui nous dit plus grand, enfin, une notion qui nous dit plus grand chose actuellement. Je vous lis encore notre argument. Il serait contraire au sentiment d'humanité de punir la personne qui aide à mourir un ami humilié et déshonoré par les propres fautes commises dans le passé, et ceci indépendamment du fait qu'il s'agisse dans le cas concret de l'assistance ou de l'incitation au suicide. Il serait contraire à la justice de punir celui qui prête assistance par son encouragement ou la remise d'instruments au suicide d'une personne décidée à mettre fin à sa vie lorsque celle-ci est en phase terminale. J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Je ne sais pas ce que vous imaginez vous-même. Je pensais qu'il pouvait s'agir par exemple d'officiers ou de gens qui s'étaient mal comportés, puis qui pour éviter un jugement, une sentence publique, être déshonoré, ben se brûler la cervelle, donc un officier avec mettre ses gants blancs, puis paf, ça y est. Et puis bon, celui qui lui aurait apporté le revolver, ou qui l'aurait aidé, qui l'aurait assisté, serait resté à ses côtés, ben, ne devrait pas être puni, voyez. Alors voyez, ça, cette notion au départ, l'intention de la loi ne correspond plus tellement à la pratique actuelle. Alors oui, ça ça vient de Zurich, effectivement, oui.
Pour eux, c'est comme ça.
C'est possible. Alors toujours est-il que ça a été adopté maintenant par c'est l'article de base qui reste là sur cet article, je dois dire, n'a certainement pas trouvé d'application pratique pendant longtemps, mais maintenant, il est donc utilisé par les organisations d'aide au suicide pour pouvoir agir en toute légalité. Cet article donc a été adopté par le Conseil fédéral déjà comme projet en 1918 et puis inscrit définitivement dans le code pénal en vigueur actuellement en 1941. peut-être un petit mot du mobile égoïste, la notion de mobile égoïste qui est déterminante. Alors, mobile égoïste, ça voudrait dire effectivement agir par un intérêt matériel, mais aussi affectif ou psychologique. Donc, agir pour avoir de l'argent, agir pour avoir un héritage, ça serait considéré comme un mobile égoïste. Agir pour ne être dispensé de l'entretien d'une personne à charge, ce serait un mobile égoïste. Mais aussi combler un manque affectif, pour se mettre en valeur, pour satisfaire un besoin psychologique, peut-être qu'on pourrait être considéré comme mobile égoïste. Le fait d'être dans une association, dans une organisation, apporte quand même probablement une certaine protection vis-à-vis de d'une accusation d'avoir agi selon un mobile égoïste. On est dans une organisation qui comporte plusieurs personnes. Elles agissent normalement bénévolement, prennent de l'argent que des cotisations, puis que pour couvrir leurs frais. L'acte n'est pas rétribué. Alors, ces personnes sont, en agissant dans le cadre d'une association, d'une organisation, sont plus protégées que si elles agissaient seules. Mais il est possible aussi d'agir seul, selon la loi. Mais ces mobiles égoïstes, savoir s'il y en a un ou pas, c'est invérifiable. On ne peut pas savoir si, un intervenant dans le cadre d'une association exit ne satisfait pas un désir macabre de faire mourir quelqu'un pour satisfaire un besoin. Donc, ça ne peut pas. Voilà, donc. Donc, faire triompher une idéologie, des certaines valeurs, on pourrait dire que c'est un mobile égoïste. Pour un juge un peu, disons, éventuellement dynamique, assez, puis qui serait prêt à affronter les médias, il pourrait y avoir matière à éventuellement à faire quelque chose. Alors, il y a la loi, donc au niveau fédéral. Et puis la loi, là nous sommes toujours en Suisse. En Suisse, il y a la Confédération avec le code pénal et les cantons. Et en fait, c'est aux cantons, aux autorités cantonales qu'il appartient de surveiller l'application de la loi et de sanctionner éventuellement. Alors le cadre de cette loi est quand même assez large, il est très large. Et normalement, les juges, les autorités auront besoin de compléments pour l'application de la loi, pour savoir s'ils doivent intervenir ou pas. Et quand dans une loi, disons, aussi large, où l'État ne va pas plus loin, il y a donc des règles déontologiques qui interviennent. Donc ce qui paraît acceptable, ce qui est d'usage courant. Qui sont considérés comme de bonnes pratiques, hein. Ce qu'on pourrait appeler la soft law, qui complète la base, hein, ou l'esprit de la loi. Alors, donc, ces pratiques, cette façon d'appliquer la loi sont fixées dans des codes de déontologie, souvent d'associations professionnelles, et peuvent éventuellement être utilisés par les juges pour rendre un jugement. Les juges peuvent s'appuyer là-dessus. Et il y a encore des jurisprudences lorsqu'un jugement a été émis. Par exemple, aux USA, la peine de mort qui se fait dans certains États par injection d'une substance toxique, mortelle, demande la collaboration du médecin pour injecter la substance. Donc c'est autorisé par la loi, c'est demandé par la loi, mais en même temps, les associations médicales l'interdisent. C'est jugé, c'est légal, mais c'est déontologiquement inacceptable. Il peut y avoir donc des différences entre la loi d'un État et puis la déontologie. Alors, nous avons... Pour préciser la déontologie, nous avons entre autres l'association suisse des sciences médicales, qui malheureusement n'a pas fait comme l'association des américaines concernant l'interdiction de collaborer à la peine de mort. L'association suisse des sciences médicales en 2004 a revu ces directives. Elle les a modifiées probablement sous la pression ambiante et elle a défini que le médecin pouvait collaborer au suicide de son patient, tout en précisant que ce n'était quand même pas un acte médical. Le médecin qui agit, qui collabore au suicide, qui aide au suicide d'une personne, n'agit pas vraiment comme un médecin. L'association suisse des sciences médicales précise encore qu'il est nécessaire que la personne qui veut se suicider souffre d'une maladie incurable et que la fin de sa vie soit proche. Ce sont les conditions pour que l'aide au suicide soit déontologiquement acceptable. Excusez, je me suis mélangé avec mes feuilles. Voilà. Excusez. Alors pour l'instant, personne. À notre connaissance, il n'y a pas eu de condamnation d'intervenants ou d'associations, d'organisations donc d'aide au suicide pour mobile égoïste. Il y a eu une fois une intervention dans le canton de Bâle où un psychiatre avait initié une aide au suicide pour une de ces maladies psychiatriques qui a été empêchée, qui n'a pas pu se faire. Alors je souligne donc juste le fait qu'il y a la loi, puis il y a encore son application qui dépend, on pourrait dire, du bon vouloir des autorités cantonales. Je voudrais maintenant passer aux motivations. Qu'est-ce qui motive à se suicider? Qu'est-ce qui motive à participer à l'aide au suicide et à demander éventuellement l'euthanasie? Alors, d'abord, les motivations du suicidant, de la personne qui se suicide. On admet que 90% des désirs de mourir, le désir de se suicider sont liés à des cas de détresse. Un suicide de bilan, un suicide froid, où on fait le pour, le contre, et froidement, on se supprime, est très rare. C'est l'état de détresse et le désir de mourir est souvent lié à un état dépressif. C'est une des causes les plus importantes. Et c'est un état qui est en principe réversible, avec disparition du désir de mourir quand la personne s'améliore psychiquement. C'est lié au désespoir, au sentiment que sa vie n'a plus de sens. C'est lié au sentiment de perte de dignité. Et là, il y a le problème de la définition de la dignité. Qu'est-ce que c'est la dignité? Comment on peut dire qu'il n'y a plus de dignité, mais ça repose sur des interprétations très personnelles. Le désir de mourir et le suicide qui en découle est lié aussi à des facteurs sociaux et familiaux. Le sentiment d'être une charge pour les autres est sans doute d'un grand poids, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis il y a les douleurs. C'est la première chose à laquelle on pense, c'est ça qui fait très peur aux personnes, ce qui motive certainement beaucoup de personnes à adhérer aux organisations telles qu'existent. Mais ce n'est pas le motif le plus fréquent. C'est de loin pas le motif le plus fréquent. Ce ne sont pas les douleurs. Alors, quand elles sont présentes, bien sûr, elles peuvent contribuer au désir de mourir et au suicide, mais elles ne sont pas au premier plan. Parmi les symptômes physiques, c'est surtout l'essoufflement, la dyspnée, qui est l'un des symptômes les plus pénibles pour la personne qui en souffre et pour l'entourage et les soignants, et qui peut effectivement conduire au suicide. Il semble très important, c'est que pour éviter le désir de mourir et puis pour pouvoir diminuer les idées suicidaires, c'est que de maintenir le bien-être spirituel et le sentiment de dignité chez les personnes gravement malades et même toute personne. Concernant les motivations du suicidant, il faut dire encore que 50% des patients qui envisagent sérieusement un suicide ou une euthanasie y renoncent dans un délai de 2 à 6 mois. Ce n'est pas donc, même quand c'est très fort, même quand ça paraît très sérieux, que la personne paraît très déterminée, ce n'est pas quelque chose qui va persister tout le temps. Maintenant, passons aux motivations des membres et des associations d'aide au suicide. Leur argumentaire repose sur l'évolution morale de la société, sur la disparition d'une référence morale ou religieuse qui serait valable pour tout le monde. Il y a une sorte de multiculturalisme, il y a une diversité de philosophies, de doctrines, et on ne peut plus, selon eux, imposer au nom d'une valeur, on ne peut plus imposer aux gens de ne pas choisir leur mort. Selon eux, le dogme de l'intangibilité de la vie n'existe plus. Et ils en veulent pour preuve la pratique de l'avortement. Les partisans de l'euthanasie se basent beaucoup sur la logique, la pratique de l'avortement et sa légalisation pour que l'aide au suicide et ensuite l'euthanasie soient également légalisées. Et après la pratique, la légalisation de l'IVG, ils demandent l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Mais selon une logique imparable. Finalement, si on élimine un embryon sain, un être en puissance, pour utiliser la terminologie actuelle, qui a peut-être plus de 70 ans d'espérance de vie, sans lui demander son avis, qu'il ne peut pas donner, pourquoi on n'offrirait pas une interruption de vieillesse, une autodélivrance, ou une délivrance, selon leur terminologie, à une personne qui a un sentiment de perte de dignité, qui est très malade, qui souffre beaucoup, et qui le demande, qui exprime la volonté de mourir. Alors nous arrivons à un remplacement d'un dogme, de l'intangibilité de la vie, par un autre dogme, qui est celui de l'autonomie. On remplace une valeur une autre. L'autonomie de l'individu, le droit à l'autodétermination, qui comporte également le droit de pouvoir choisir sa mort selon ses propres valeurs ou critères. Selon les mots du docteur Sobel, qui est le président de Suisse romande, une mort qui n'est pas livrée à la seule fatalité paraît plus digne. Les organisations d'aide au suicide et qui demandent la légalisation de l'euthanasie ont inventé une nouvelle terminologie. Ils utilisent le terme d'assistance au décès, d'autodélivrance. Pour ceux qui s'opposent à leur projet, puis en mettant en avant la possibilité de recourir aux soins palliatifs, on a trouvé le terme d'acharnement palliatif. Et puis, il parle aussi de bonne mort. Alors, il n'y a pas de confusion, messieurs les abbés. la bonne mort des organisations d'aide au suicide n'est pas celle que nous trouvons dans les catéchismes traditionnels. Il faudra peut-être faire une révision des prochaines éditions. La bonne mort, c'est de mourir sans... c'est se mourir avant tout sans souffrance, comme on veut, avec un sentiment de dignité conservé, que ça se passe très bien, on peut dire propre en ordre. Je vais essayer de retrouver un article d'un docteur Kiefer. Ah bah si, je commence à faire tomber les feuilles. Le docteur Kiefer a écrit dans la revue médicale de Suisse romande un bloc-notes intitulé « Suicide symboliquement mal assisté ». Voilà. Alors, il parle sur cette notion, un peu cette espèce de notion, cette dimension religieuse qui est prise maintenant par l'assistance au suicide, en ayant recours aux organisations. Le sentiment religieux, coupé de sa vieille racine, se cherche encore maladroitement de nouveaux rites, une symbolisation efficace, un ensemble capable de réenchanter l'existence touchant à sa vie. De lui-même, le système de suicide assisté s'est déjà organisé autour de cérémonies. Des prêtres, entre parenthèses les accompagnateurs, tendent une potion qui opère ce qu'exit, par exemple, appelle l'autodélivrance. Toute une liturgie laïque, des paroles, des rites précis se développe autour de cette notion de délivrance. Peut-être même le retour d'une dimension sacrificielle et propitiatoire de la mort volontaire, si présente dans l'histoire des civilisations. À la place des anciennes croyances, une théologie athée a donc tendance à s'installer. Comme les autres, cette théologie a ses dérives, deux surtout, la mystique de la bonne mort d'abord. Cette idée qu'une mort paisible, sans révolte, sans détresse apparente de la part du mourant serait un idéal à viser. Au nom de quoi la tranquillité garantirait une meilleure mort que l'agitation? Pourquoi le silence vaudrait-il mieux que le cri? La notion de courage, ensuite. Dans un récent débat public, des membres d'une organisation d'aide au suicide faisaient l'éloge du courage chez le suicidant. On avait la désagréable impression de se retrouver face à un classique prosélytisme. Pire peut-être, la mystique du courage s'apparente vite à l'exhortation des mollahs qui poussent des jeunes à se lancer dans des attentats suicides. Or non! Face à une maladie dégradante, il n'y a pas plus, ni moins d'ailleurs, de courage à choisir le suicide plutôt que l'affrontement par la vie. Voilà quelques sources de réflexion. Je vous laisse y réfléchir pendant que je cherche mes autres feuilles. Décidément, je ne sais pas comment je m'organise. Voilà. Encore quelques arguments des organisations. L'aide au suicide avec l'utilisation du pentobarbital a le mérite d'éviter des suicides violents. Ils partent du principe que celui qui veut se suicider se suicidera de toute façon. Donc autant qu'il le fasse en douceur, de façon convenable, dans l'intimité de son logement, plutôt que faire ça de façon publique, dans la rue, ou d'une façon violente, toujours répugnante, avec les traumatismes qui s'en suivent. Les membres des organisations, les membres dirigeants des organisations d'aide au suicide sont des partisans, bien sûr, de la légalisation de l'euthanasie, avec l'argument que si les gens qui ont un désir de mort et qui ne veulent pas souffrir et qui ont un sentiment de perte de dignité, s'ils savent qu'ils pourront un jour, quand ils n'en ont plus les moyens ou qu'ils n'ont plus les moyens d'exprimer leur volonté, s'ils savent qu'un jour ils pourront être tués par quelqu'un, en douceur bien sûr, eh bien, ça éviterait éventuellement des décisions prématurées d'aide au suicide. Et donc, un argument qui, dans notre logique actuelle, dans la logique actuelle, doit porter ses fruits. L'avenir le dira. Alors j'arrive donc là au chapitre évolution et que faire? Vous avez donc déjà, je vous ai déjà suggéré qu'il y avait un glissement pratique entre la loi telle qu'elle est, entre l'intention de la loi du début du XXe siècle et la pratique actuelle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi un glissement entre les directives, les règles déontologiques, les directives de l'Association suisse des sciences médicales et la pratique actuelle. On a une enquête à relever que c'est même d'ailleurs même plus actuel, puisque c'est une enquête qui s'est étendue de 1992 à 1997. Sur un groupe de personnes qui s'étaient suicidées par suicide assisté. Il a été noté que dans cette enquête que un quart des personnes n'avaient pas de maladie terminale. Et que le suicide assisté avait eu lieu moins d'une semaine après le contact avec l'organisation. Alors, comme vous vous souvenez, je vous ai dit que ce désir de suicide était, dans au moins 50% des cas, fluctuant, et que la moitié des personnes qui paraissaient vraiment déterminées y renonçaient quand ils en avaient la possibilité. Vous voyez qu'il y a une certaine hâte, oui. Alors, selon les directives de l'Association suisse des sciences médicales, oui. Il faut qu'il y ait un délai, il faut qu'il y ait je ne vais pas rechercher dans mes notes parce que ça va trop interrompre, mais je pourrais vous dire ça après. Il faut qu'il y ait une persistance, il faut qu'il y ait la notion d'une persistance suffisante du suicide. Dans le temps, ça n'a pas été défini de façon précise, mais il faut vraiment être sûr que le désir soit persistant. Quand on intervient, on pratique le suicide juste après, une semaine après la prise de décision et le contact, ça paraît quand même difficile de dire que c'est persistant. Tout à fait. Alors, c'est moins d'une semaine. Ça veut dire que c'est entre une semaine et un jour.
Comme il n'avait pas la possibilité, parce qu'il faut aucun délai pour la prescription du produit.
Oui.
Ils ont passé à la méthode avec l'hélium, je crois que
Alors voilà, oui, ça c'est c'est une technique qui est utilisée par Dignitas, je n'en ai pas parlé, mais qui est en cours d'essai, avec des résultats prometteurs, semble-t-il. Alors, vous voyez, les partisans de la légalisation de l'euthanasie pourraient vous dire que pour éviter ça, cette hâte et cette précipitation, on pourrait quand même, alors si on légalisait l'euthanasie, puis que ces personnes savaient qu'éventuellement, elles pourraient être euthanasiées plus tard, sans même sur la base de directives anticipées, eh bien, on pourrait éviter ça. Je continue. Monsieur Stadelmann, donc le sous-directeur de la Département fédéral de justice et police, nous a communiqué aussi qu'ils ont relevé eux-mêmes que 35% des suicides actuellement, donc récemment, 35% des suicides assistés n'était pas le fait de personnes gravement malades, mais simplement définies comme fatiguées de vivre. Donc on arrive, ouais, alors un bon tiers. Et il a noté également que même des organisations qu'on pourrait dire soft, comme Exit Suisse Romande, qui agit, je dirais, avec beaucoup plus de circonspection, de prudence que Dignitas, même ces organisations soft, qui étaient au départ pas favorables pour l'assistance au suicide de malades psychiques, maintenant le demandent et demandent que ça puisse être fait. Ce qui est encore déconseillé par la Commission nationale d'éthique. pour l'instant. Alors, devant cette évolution, on pourrait se dire que les autorités médicales et judiciaires des cantons ferment les yeux sur certains, dans bien des cas, ou ne vont pas creuser trop loin, ne vont pas chercher la petite bête. Et sont-elles intimidées ou... On peut imaginer effectivement qu'un juge qui commencerait à creuser là-dedans puis mener une action en justice puisse ne pas être tranquille après dans sa vie. Je ne sais pas. Il faudrait. Bon, on pourra en discuter. Alors, devant cette évolution, ce glissement, devant les intentions quand même clairement affichées des organisations pour l'aide au suicide, devant leur prosélytisme, il y a quand même, vis-à-vis de ces aides, il y a quand même, de ces organisations, il y a quand même une méfiance de diverses personnes, toutes opinions confondues. Les associations Exit ou Dignitas font quand même un peu peur. Et ces personnes-là demandent de légiférer au sujet de l'assistance au suicide. Elle demande, sous le prétexte, sous le motif, disons, d'encadrer, de superviser, d'encadrer, de contrôler la pratique de ces organisations. Je vous cite encore le docteur Kiefer, qui lui fait partie des personnes qui demandent qu'on légifère. Donc, il faudrait que des vérifications suffisantes soient effectuées dans chaque décision d'assistance au suicide. Et il faudrait que les organisations spécialisées dans l'assistance au suicide soient soumises à la surveillance de l'État. C'est une recommandation également de la Commission nationale d'éthique. Mais le Conseil fédéral, et surtout le département de justice et police, qui était dirigé à l'époque par M. Blocher, en 2006, a renoncé à légiférer. Et a fixé dans la loi cette aide au suicide. Il a préféré rester au stade de pratique tolérée que plutôt pratique officialisée, avec le risque d'une reconnaissance officielle de ces organisations et de leur donner un statut officiel qu'elles n'ont pour l'instant pas. Alors, faut-il légiférer ou pas? On pourrait intervenir à ce sujet après. Que pourrait faire éventuellement le département fédéral? Revenir en arrière? Abroger l'article 115? Mais il y a une opinion, enfin, qui est soutenue par la presse, hein, qui est derrière. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Donc le sujet est assez délicat. On a peur, en y touchant, de précipiter un mouvement qui irait vers la reconnaissance officielle de ces organisations, et puis qui serait certainement après le pas déterminant pour une reconnaissance légale de l'euthanasie. Je vous lis en guise de conclusion encore un extrait de l'article de Dr Kiefer. Choisir de se suicider ou d'aider quelqu'un à se suicider, ce n'est pas simplement soulager d'une souffrance, viser ou respecter une autodétermination, c'est aussi à la fois exprimer une vision du monde, affirmer des valeurs. Loin d'être un événement privé, la mort, non seulement comme notion abstraite, mais aussi comme pratique sociale, constitue le point central de la société, celui qui provoque à la culture, entre guillemets. On ne touche pas à la façon de mourir sans devoir reconstruire la culture. Je vous remercie de votre attention. Je passe tout de suite la parole à Sonia Perrufo, qui va affronter courageusement l'auditoire. Merci. Je distribue encore deux, trois exemplaires document de la l'association existe, hein, si, pour vous éclairer votre pratique. Ah, merci. Pas de publication. Sonia, je vous laisse la parole, je débarrasse comme si je n'étais pas là.
Ah, bonsoir, je vais vous exposer mon vécu par rapport à Exit. Donc, je suis en plein dedans. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc vos avis et conseils sont bienvenus. Donc, moi, j'ai été confrontée, non pas personnellement avec des patients, mais plutôt directement par rapport à l'institution. Donc, je travaille comme infirmière en soins à domicile. Et puis, donc c'est dans une région du Valais qui est divisée en 6 secteurs. Et donc, la direction a voulu développer les soins palliatifs à domicile. Et donc, pour ce, il y a une personne dans chaque secteur qui forme un groupe soins palliatifs dans lequel on discute de situations palliatives pour avoir la même ligne de conduite. On expose des sujets comme l'antalgie, l'hydratation. Et donc, je fais partie de ce groupe. Et il y a donc un sujet qui a été demandé par la direction de traiter, c'est de réactualiser une charte par rapport à l'attitude du CMS par rapport à Exit, justement. Donc, j'ai déjà été confrontée par rapport à l'équipe du groupe. Et je vais d'abord vous lire la note provisoire qui est actuellement. Donc, note provisoire concernant les demandes des clients du CMS pour une aide au suicide assisté. Donc, premier point, le personnel du CMS peut donner des informations, documentation, numéro de téléphone, sur Exit uniquement et sur demande répétée du client. Deuxième point, le personnel ne fait pas les démarches pour le client, mais l'accompagne dans sa prise de décision. Troisième point, les équipes doivent respecter le choix de la personne, mais ne doivent pas prendre position face à la décision du client. Quatrième point, hors de la présence du client, il n'y a pas de lien ni de contact avec le CMS et l'association Exit en relation avec un client particulier. Cinquième point, le personnel du CMS n'est pas présent lors du suicide assisté de son client. Il peut collaborer à la recherche et à l'appui d'une présence, famille, proche. Donc cette position restrictive est motivée par le fait que le CMS comme institution ne peut garantir à chacun de ses clients concernés un tel accompagnement. En effet, le CMS ne pourrait imposer à aucun membre de son personnel de dispenser une telle prestation. Autoriser les collaborateurs du CMS qui seraient prêts à le faire pour leurs clients instaure une inégalité de traitement envers les clients suivis par ceux qui ne pourraient pas prendre part à un tel accompagnement. Donc une prise de position ainsi qu'une procédure seront données lorsque le groupe de travail éthique et soins palliatifs sera mis en place. Donc le groupe a été mis en place. Donc j'ai dû déjà m'affirmer par rapport au groupe, par rapport à mes positions. Donc ils sont au courant de mes positions, que je suis opposée et que je m'opposerai je m'opposerai à ça. Et par la suite, donc... ma plus grande confrontation, ça a été que la direction m'a demandé de prendre la tête du groupe soins palliatifs. Donc, ce qui veut dire que je suis en tête de ligne pour discuter de ce sujet d'Exit. Et j'ai trouvé nécessaire d'aller voir l'infirmière chef et de lui donner mes positions par rapport à Exit avant qu'elle prenne la décision réelle de me mettre en tête de ce groupe. Donc, je suis allée voir l'infirmière chef et je lui ai d'abord exposé mes trois oppositions. La première, donc, face à mes croyances religieuses, c'est que c'était donc le bon Dieu qui donnait la vie et puis qui la reprenait. Donc, ce premier point me posait problème. Deuxième point, face à ma conception des soins palliatifs, Exit pour moi. Donc, est en opposition totale avec les soins palliatifs, dans le sens où on est censé accompagner le patient en fin de vie, en lui procurant des soins de confort optimal. Et donc, par la même occasion, comme a dit M. Blanchu, de travailler plutôt sur les points qui poussent les gens à faire appel à Exit. Si c'est la dépression, traiter plutôt la dépression. Si c'est... une souffrance spirituelle, détresse spirituelle, essayer de trouver des solutions à ce qui pousse les gens à faire appel à Exit. Et troisième point important que j'ai nommé, c'était le mal-être, enfin éthique et morale des personnes comme moi qui auxquelles une décision faire appel à Exit pose un gros problème moral et puis qui induit des crises d'équipe entre des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. Et là, c'est vrai que l'infirmière-chef m'a exposé des situations problématiques dans le sens là où une personne qui était pour l'assistance au suicide a vraiment poussé un patient à faire appel à Exit et ça s'est fait. Et une autre personne qui était contre, et vraiment, il y a eu un conflit d'équipe vraiment important. Et aussi, donc, par rapport à la cellule familiale, dans le sens où souvent, une personne qui fait appel à Exit, la famille en est souvent opposée et souffre de devoir accompagner un parent dans cette démarche. Et donc, nous, en tant qu'infirmière, aller s'opposer à la famille, ça accentuerait aussi ce conflit. Donc, j'ai donné d'abord mes trois oppositions et après, je me suis appuyée sur cette note provisoire en discutant de chaque point. Donc, par rapport au fait que le personnel puisse donner des informations, j'ai dit que je m'en opposais, donc que je n'avais pas de tolérance même à ce niveau-là, dans le sens où moi, je m'appuyais par rapport au RSV, au réseau Tantévalet, qui lui s'oppose, qui ne rentre aucunement en matière, ni dans ce niveau d'information. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que nous, on n'était pas une institution, dans le sens où le patient, elle comprenait qu'à l'hôpital, un patient ne puisse pas faire appel à Exit, mais par contre, à domicile, il est chez lui, donc il peut. J'ai dit d'accord, un patient est libre de faire appel à Exit chez lui, mais en quoi nous, en tant qu'infirmière, on serait dans l'obligation de le faire. Et donc, voilà, donc c'est le premier point. Ensuite, par rapport aux démarches, ils disent qu'on n'a pas le droit de... On doit l'accompagner dans sa décision, mais ne pas influencer cette décision. Ce que j'ai mis en avant, c'est que je trouvais qu'on influençait... les patients étaient fortement influencés dans le sens de faire appel à Exit par les médias. C'était facile de dire qu'on mourait indignement, qu'une personne âgée est une charge pour la société. Donc, on influence dans ce sens de... C'est très facile à une personne de faire appel à Exit. Alors, pourquoi pas travailler l'influencer dans le sens contraire, donc de lui plutôt de l'encourager, de lui donner de l'espoir. Et là, elle était quand même d'accord avec moi. Donc, de plutôt faire un travail dans le sens-là. Et puis, elle me disait qu'ils avaient quand même une tolérance. Ils n'étaient pas d'accord avec Dignitas, mais quand même Exit, ils étaient beaucoup plus doux, comme vous avez dit. Et donc, moi j'ai dit que donc aucunement, je n'avais aucune tolérance. Et là, ce qu'elle m'a dit, ah, c'est un peu donc comme les personnes qui sont contre l'avortement, qui ne veulent pas travailler en gynécologie. Donc moi j'ai dit, ben voilà, vous avez raison, j'ai jamais travaillé en gynécologie, c'est pas pour rien. Donc Et elle m'a dit, moi j'ai une question à vous poser. Si maintenant le CMS dit qu'il veut accompagner les personnes jusqu'au bout avec Exit, quelle sera votre position? Comment vous ferez? Je dis, écoutez, moi je n'irai jamais à l'encontre de mes croyances, quitte à partir, si vous ne voulez pas payer cette formation que je dois faire là prochainement, tant pis pour moi, mais jamais j'irai contre mes convictions. Elle m'a dit, mais vous en faites pas, hein, on n'en est encore pas là. Donc... Alors là, je lui ai dit, voilà, la balle est dans votre camp. Maintenant, vous irez voir la direction et puis vous discuterez de voir si vous voulez me voir en tête de ce groupe soins palliatifs parce que vous saurez que moi, je suis opposée, mais totalement. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qui a été décidé? J'ai dû attendre le week-end, donc elle discute avec le directeur. Et lundi, j'ai eu le téléphone du directeur, de l'infirmière qui m'a dit que donc il me prenait en tête du groupe soins palliatifs parce que chacun était libre de penser ce qu'il voulait et qu'on ne devait pas aller à l'encontre des valeurs morales et éthiques du personnel. Donc voilà. Donc du coup, au grand étonnement de mon mari, de moi-même, il faut croire qu'en Valais, on n'a encore pas...